Deuxième et dernier volet de notre série consacrée aux anciennes radios du Finistère. Après la libéralisation des ondes en 1981, rappelez-vous, de nombreuses stations FM se sont lancées. La semaine dernière, nous avons passé en revue les anciennes radios de la région brestoise, comme Radio Brest Atlantique et Radio Paradis. Cette semaine, c'est aux stations du centre et du sud Finistère que nous nous intéressons. Je vous propose d'abord de partir en presqu'île de Crozon pour rencontrer Gérard Dujarrier. Il est l'un des créateurs de Fréquence Bleue, une radio au destin malheureux, puisque pour des questions administratives, elle a dû cesser ses émissions. Gérard Dujarrier, vous allez d'abord nous expliquer comment Fréquence Bleue a vu le jour. Je crois que c'était après une réunion avec des animateurs de Radio Brest Atlantique.
Ils viennent avec les statuts, puis ils nous disent, ben voilà, ça serait intéressant de faire une radio sur la presqu'île. Et puis voilà, mais les finances et tout. Alors j'ai dit, ben écoutez, ce que je vais faire, je vais faire le tour de la presqu'île, puis je vais ramasser l'argent. Et en fin de compte, j'ai réussi à ramasser l'argent pour acheter un studio complet. Donc on est parti sur une très bonne base. Tout, on achète tout et on démarre. 68 personnes ont passé en tout jusqu'en 1992. Et on a quand même quelques-uns qui ont bien réussi, hein, parce qu'il y a Kéromnes, il s'appelait Kéromnes, il faisait les émissions sur le cinéma, il y travaillait à RTL, on ne devrait pas le dire. J'ai Jean-Louis qui était le deuxième président de la radio, il travaille donc dans le Calvados à encore une autre grande radio, Radio Calvados, hein, comme Radio Mayenne, comme Radio Armorique et tout ça. Quoi. Donc voilà, il est donc directeur des programmes. Et il y a quand même un qui est monté très haut, il est directeur sur M6 des programmes de chansons. C'est une personne de la presqu'île qui a fait ses études à Brest. Voilà, c'est bien ça.
Alors c'était quoi la vocation de Fréquence Bleue alors, quand elle a été créée?
Alors donc, on a inventé des émissions, hein, bien sûr. Alors toute la journée, en fin de compte, les programmes commençaient à 6h30 le matin et finissaient à minuit le soir. La journée, c'était il y avait 4-5 animateurs et qui tournaient régulièrement. C'était les infos. Bon, alors on a expliqué comment c'était. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses, hein. Mais ce que je retiens principalement, c'est le soir, moi, puisque moi je rentrais du travail et le soir je rencontrais tout le monde. Alors le lundi, je savais que c'était l'émission rock, suivie de hard. Le mardi, c'était du jazz. Le mercredi, c'était folklorique. On avait des relations avec d'autres radios dans les pays étrangers, de la Guadeloupe, de la Réunion.
La musique du monde.
Ben oui, parce qu'il y avait une radio qui s'appelait Fréquence Bleue là-bas, alors c'était formidable. Et alors, on a commencé à faire que des émissions à thème le soir. Et le vendredi, on a fait des émissions style des radios parisiennes maintenant, mais on avait commencé, nous, en 83, à faire des émissions la nuit, disant, si vous avez des copains, vous téléphonez, etc. Et puis on invitait des fois des gens, des magiciens, des trucs comme ça. Enfin, c'était plutôt des charlatans. Ils se faisaient bien allumer par les auditeurs. C'était assez folklorique. Bon, on avait des invités à tout ça. Et le samedi matin, voilà mon émission. Ça, c'est samedi quelque chose, ça s'appelait. On commençait à 8h et on finissait à midi. Et je racontais un peu tout ce qui se développait sur tout Finistère Nord et Sud, au niveau manifestation, théâtre, enfin tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on pouvait nous donner comme renseignement.
Voilà. Alors sur la presqu'île de Crozon, vous aviez la concurrence des radios brestoises notamment. Comment est-ce que vous réussissiez à avoir votre ancrage local, à garantir justement cette identité en presqu'île à Fréquence Bleue?
Tout simplement parce qu'on ne faisait pas les mêmes programmes. Déjà, on avait une belle discothèque, moi, personnellement. J'avais déjà une grande discothèque depuis les années 60.
Chacun amenait ses disques?
Ah oui, au début, chacun amenait ses disques. Hein. Ah oui, oui. Bah oui, eux, ceux qui faisaient les émissions de jazz, on n'achetait pas du jazz. Hein. Ils venaient, c'était des gens qui venaient de loin. Il y avait deux de Brest et un de la Presqu'île qui faisaient les émissions de jazz. Hein. Ils étaient trois. Et s'il en manquait un, il y avait toujours deux, quoi. Voilà comment ça marchait. Et pour le rock, ben là, lui, s'il venait avec ses chansons, puis je les soupçonne d'aller voir les disquaires et sortir les trucs. Mais bon, il y avait quand même une boîte à Brest qui nous filait pas mal de disques aussi.
Comment est-ce que Fréquence Bleue a évolué, alors?
Alors, elle a évolué, oui, parce qu'on était quand même 12 salariés hein, dans la radio.
C'est une radio privée.
Oui, privée, parce qu'on n'a jamais eu de subvention. Hein, alors donc, il a fallu... c'est la publicité. Hein, donc, on avait l'AFP qui nous faisait nos informations. Donc ça, c'était gratuit, puisqu'en contrepartie, on leur faisait l'échange publicitaire de tout ce qu'ils passaient dans les infos gratuitement. C'était facture, quoi. Et puis bon, on avait quand même les publicités nationales, qui à l'époque étaient quand même assez intéressantes. C'était la moitié du budget, quoi. Et autrement, les publicités de la Presqu'île.
Alors, Fréquence Bleue est devenue Radio Caroline par la suite. Ah. C'était en quelle année?
Alors, ça s'est passé en 89, si je ne me trompe pas. Radio Bleue a commencé à nous dire, ben voilà, faut plus s'appeler Bleu, quoi.
Alors, Radio Bleue du réseau Radio France.
Voilà, c'est ça, tout simplement. Et donc, on a été trois radios en France qui s'appelaient Fréquence Bleue, et on a été obligé de changer de nom. Et alors là, il est venu une idée, c'est de faire une radio Bretagne, sous le nom de Caroline.
Qui existait déjà à Rennes.
Qui existait déjà à Rennes, qui avait deux fréquences à l'époque, et nous on en avait deux aussi. On a dit voilà, alors eux ça les intéressait dans le sens où on récupérait, ça c'est économiquement, on récupérait la publicité au niveau de la Bretagne. Voilà, c'est le but, hein. C'était les mêmes affiches, les mêmes musiques et tout ça. Mais les informations partaient quand même de Crozon pour le Finistère Nord et Sud. Et Rennes avait son secteur Dinard et de l'autre côté Nantes. On suivait aussi la voile. Une chose qu'on faisait beaucoup, on avait une radio donc, qui était à Saint-Malo et à La Rochelle. Et alors donc quand il y avait des grandes de voiles soit là-bas, on avait toutes les informations de ces radios libres de là-bas qui nous les donnaient ici. Et nous, quand on avait pas mal aussi sur Brest, hein, je rappelle, il y avait la base de vitesse, hein, on était en direct de la base de vitesse, et on a envoyé tous les communiqués à toutes les radios du secteur, et tout ce qu'il y avait en voile, en championnat du monde, on y était présents à tous. Et puis bah, voilà, quand il a eu la demande, bah, nous on a fait la demande, mais groupée avec toutes les fréquences qu'on pouvait avoir sur le secteur, et en fin de compte, ils ont donné que deux fréquences. Ce qui fait que Radio Caroline, Rennes, s'est retrouvée avec deux fréquences, et nous, on était en troisième position pour notre secteur, puisqu'on revenait par là, on n'a rien vu du tout.
Il y a
eu
donc que vous avez été obligé d'arrêter.
Et on a été obligé d'arrêter. Voilà. Et notre fréquence, elle est partie à une radio parisienne.
On ne sera pas là dimanche prochain, ne nous oubliez pas. On démarrera, j'espère, le plus rapidement possible. Et puis, merci encore à Fanch de nous avoir donné ce côté accordéon. Si même des fois, je ne suis pas très preneur, mais...
Il y a des gens très preneurs.
Je prends quand même tous les dimanches matin.
Voilà le mérite d'un bon directeur d'antenne, c'est de ne pas refuser les émissions comme celle-là, ce que fait Radio Caroline. Pour ce que d'autres radios, allez leur proposer une émission comme celle que fait Fanch, ça m'étonnerait qu'elles acceptent, voyez-vous.
Voilà, bon dimanche à tous.
Radio Caroline, devenue aujourd'hui Iroise FM, mais cette station émet temporairement depuis Crozon, car elle n'a pas reçu d'autorisation définitive. Radio Poer fut, comme de nombreuses radios libres, créée pour animer un secteur géographique, en l'occurrence ici la région de Carhaix. Rémi L'Hôpital, vous avez été de l'aventure de cette station qui s'est vite distinguée en retransmettant sur ses ondes le conseil municipal. On peut parler d'action citoyenne, ce qu'on cherche d'ailleurs à promouvoir aujourd'hui. Racontez-nous ça.
Ça fait venir du monde au conseil pour voir comment ça se passait, parce que ça intéressait les gens automatiquement, plutôt que de lire la... La retranscription par les journalistes des quotidiens habituellement, ben là, ils avaient la possibilité de l'écouter en direct. Et quand ils ont commencé à écouter, beaucoup de gens sont venus au conseil, assister au conseil, voir comment ça se passait. Il y a quelquefois des interprétations qui ne sont pas les mêmes. Ça permet d'avoir une vue plus directe de ce qui a été dit par les personnes concernées. Là, il n'y a pas photo, comme on peut dire. Il n'y a pas de transformation possible. Là, c'est du direct. Ce qui a été dit n'est pas transformé par les journalistes éventuellement. C'était un peu dans le objectif de participation, si on peut, des idées participatives comme on peut en voir exister maintenant. Et donc les gens étant concernés, entendant directement les personnes parler, peuvent ensuite les interpeller dans la rue ou au téléphone pour faire savoir pourquoi ils ont dit ça et pourquoi ils ont voté de telle façon ou d'une autre.
Il y avait quoi autrement comme émissions qui ont vraiment marqué le Centre-Bretagne?
Bon, il y avait des retransmissions d'événements locaux. Hein. Surtout, ce qui a pu marquer surtout, c'est les retransmissions de matchs de foot, par exemple. Quand Carhaix a été en finale de la Coupe de l'Ouest, on est allé sur place à Mordre-Bretagne ou à Plumelec retransmettre des matchs très importants, des finales ou quarts de finale, demi-finale de Coupe de l'Ouest. Quand la Carhaix est montée en division 4 à une certaine époque aussi, on a fait la retransmission du match en question en direct du terrain. de Trocrez, Braise, des courses célèbres qui n'existent plus d'ailleurs, mais qui ont été suivies en direct par la radio.
Est-ce que la radio, c'est un élément de désenclavement ? Les réseaux dans le centre-Bretagne ne viennent pas, les réseaux parisiens ? Est-ce que c'est un atout ?
Ils ont fait des essais, hein, mais ici, on est assez résistants. Tout récemment, on a vu les événements sur l'hôpital de Carhaix. On est très résistants à ce genre de choses. Et on a eu des propositions de rachat aussi de radio à l'époque par des réseaux, mais ça ne nous a pas intéressés. C'était autre chose, c'était un aspect financier. Ça s'est arrêté tranquillement dans les années 90, mais avant, il y a eu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les problèmes de réseau. En 86, quand la publicité a été ouverte sur les radios locales, ça a été le début de la fin, quoi, pour les petites radios. Parce que les publicités ont commencé à envahir les radios. Les moyens financiers de ces radios-là qui faisaient la publicité n'étaient plus comparables aux moyens des petites radios comme les nôtres. Et on ne pouvait plus faire face à la concurrence, quoi.
Et pourquoi vous n'êtes pas passé en société pour faire de la publicité aussi ?
Ça ne nous intéressait pas spécialement. Notre projet n'était pas là. C'était plus pour faire de l'animation et de l'information locale. Pas du commercial.
Et vous n'aviez pas de subventions pour justement
vous rivaliser ? On avait très très peu de subventions. Le moyen, c'était organisation de fest-noz, vente de cartes de soutien, vente d'autocollants, des petites choses comme ça, des dons, mais nos moyens n'étaient pas énormes. On a bénéficié aussi du fonds de péréquation à une époque, mais c'était pas énorme.
C'est le fonds de soutien, c'est ça ?
Le fonds de soutien. On a commencé à regarder un peu autour de nous, s'intéresser à d'autres radios. On a commencé à avoir des liens avec Radio Braden à Quimper. On a fait des échanges d'émissions. Et puis ça faisait un peu loin de Carhaix. Les intérêts n'étaient pas les mêmes qu'à Carhaix, entre Quimper et Carhaix. Et donc on était proche de RMN aussi. On les connaît bien, les gens. On s'est vus, on s'est rencontrés. On a décidé un peu comment on allait faire. Et on a décidé de faire des émissions communes, des directs d'une radio à l'autre, des échanges d'émissions. Et puis, à la fin, on a fini par se rendre compte que c'était plus la peine de continuer à travailler comme ça. On est allé à Gourin faire des émissions. Et puis, on a fusionné complètement.
Océan FM.
Sur RCF Rivage, nous évoquons toujours les anciennes radios du centre et du sud Finistère. Entre Quimperlé et Douarnenez, peu de radios ont résisté à la vague des réseaux dans les années 90. Rappelez-vous de Fréquence Laser, de Radio Saphir, de Radio Cap, de Radio Glénan ou encore de Radio Finistère 1. Et parmi toutes ces radios locales, nées après 1981, une seule a résisté en Cornouailles. Il s'agit de Radio Océan située à Moëlan-sur-Mer. Jean-Paul Le Gallic, vous êtes le cofondateur de cette radio généraliste. Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire en nous disant tout d'abord dans quelles circonstances Radio Océan s'est créée ? Quelle était la motivation à la base ?
L'idée est venue tout simplement d'une personne qui s'appelle Gérard Robin, qui est dans la sonorisation depuis des années et des années. Et Gérard voulait lancer une radio dans le secteur, donc on a choisi Moëlan-sur-Mer puisqu'on était sur Moëlan. Et à cette époque-là, en 81, c'était donc dans les premiers jours de novembre, la radio a été lancée. Alors il y avait à l'époque une quinzaine de personnes, commerçantes, artisans, également des professions libérales, également des employés, qui ont monté cette radio-là en donnant un petit peu de leur argent personnel pour acheter le premier matériel. Et on s'est installé donc à Kervardel, chez Gérard Robin, dans un site pas très agréable, mais enfin on a fait au maximum pour réussir notre tentative et réussir à nos débuts, puisque Radio Océan en 81, comme toutes les radios indépendantes, ont progressé largement dans les suffrages et dans les sondages, et on avait énormément de monde à venir nous rencontrer. Alors la radio se passait de cette manière, c'est que les commerçants et artisans faisaient des émissions dans la journée, et nous, eh bien, salariés, on prenait le relais le soir. Si bien que la radio marchait à peu près de 7h le matin jusqu'à 23h, 24h, tous les jours, même y compris les week-ends.
Quelle était votre motivation personnelle à vous à cette époque ?
Oh, c'était pour s'amuser. On était, faisait partie, la plupart d'entre nous, on faisait partie d'associations. Moi, j'étais avec Jean-Michel Lerin, avec Gérard Robin, avec Yves Clujury. On était au comité des fêtes de Moëlan. Donc, on était déjà des bénévoles dans plusieurs associations. Et pour nous, c'était uniquement de se faire plaisir. C'était un monde qu'on découvrait. Et je pense qu'à cette époque-là, on n'a pas vu plus loin que le fait de se faire plaisir.
Et vous avez été dépassé par le succès de Radio Océan quand même, non ?
C'est vrai que arrivé, je crois, la deuxième année, donc 82, 83, il y a des annonceurs qui nous ont demandé, ben écoutez, on sait que les gens de Quimperlé, Moëlan, Concarneau écoutent Radio Océan et on voudrait faire la publicité. Alors on s'est dit en tant qu'association, mais on n'avait pas envisagé d'embaucher qui que ce soit. Et puis finalement, bien, on a décidé de prendre notre envol et on a embauché un salarié qui s'appelle Gilles Jourdain, qui est toujours sur Radio Océan à l'heure actuelle en 2008.
Au début des radios locales, il y avait beaucoup de concurrence, des radios libres même, hein, début des années 80. C'était comment pour Radio Océan, du côté de Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, Lorient ?
Du côté de Quimperlé, il y avait Radio Côtière également. Ça, c'est la première qui a été montée par Raymond Pincec, qui a travaillé pendant de nombreuses années à la mairie. Quelqu'un de très bénévole et quelqu'un de très dynamique qui a monté cette radio-là. Mais finalement, ben, dans le paysage radiophonique du secteur, il n'est plus resté rapidement que Radio Océan.
Comment s'explique cette longévité, Jean-Paul Le Gallic ?
Tout simplement, c'est qu'on a pris à cœur notre radio et puis finalement, ben, on a eu, je pense, plus de succès que les autres, du fait de notre programme, du fait d'avoir des salariés, on avait deux à l'époque. Et finalement, on a pris véritablement notre envol en 87, quand on est venu ici au centre-ville de Moëlan-sur-Mer, où on a acheté les anciens locaux du Crédit Mutuel de Bretagne et on s'est mis en société. Et finalement, bon, c'était arrivé, Radio Océan était devenu non plus une association normale, mais c'était devenu une société.
Et c'est quoi le secret ? C'est le contact avec les auditeurs ? C'est la programmation musicale ? C'est quoi ? Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous donner ?
Non, je crois que c'était le fait aussi, c'est qu'on était quand même bien impliqués dans le tissu social, tissu associatif. On connaissait beaucoup les commerçants et artisans qui faisaient partie de la première équipe, je dirais, de Radio Océan. Nous, on était connus également, Jean-Michel Lerin, moi-même, par donc, le football et autres. Si bien que les gens ont adhéré rapidement à notre programme et ils nous ont suivis. Et je crois que c'était important à ce niveau-là. C'est vrai qu'à cette époque-là, on avait des vedettes. On a eu Richard Anthony, on a eu Bernard Ménès, on a eu ben, également au niveau du sport. On a toujours privilégié le sport, ça c'est important. On a eu des coureurs cyclistes qui sont venus, des joueurs de football comme Stéphane Guivarch. On a eu un tas de monde à venir sur les ondes de Radio Océan. Et en même temps, on allait vers le public, puisqu'on avait, c'était une anecdote intéressante, puisqu'on avait acheté un ancien car de la Caisse d'épargne, le car qui servait de bureau itinérant, et avec cet instrument de travail, on allait vers les auditeurs, on faisait ce qu'on appelle le disque à la carte le dimanche matin, en direct de bars, restaurants, de toute la région, si bien que les gens venaient et puis restaient écouter Radio Océan dans la semaine après.
99.2, Moëlan-sur-Mer, bassin de Quimperlé et région Morbihan. Océan FM, où que vous soyez, choisissez votre fréquence. Océan FM.
Radio Brovigouden était, comme son nom l'indique, une radio de pays, elle aussi bien ancrée dans son territoire, la région de Pont-l'Abbé. Jacques Darras, les auditeurs vous connaissent puisque vous animez deux émissions de musique classique sur RCF Rivage, mais ce qu'ils savent moins, c'est que vous avez présidé Radio Brovigouden. Je voudrais que vous nous parliez de l'esprit de cette radio à l'époque.
À l'origine, ce sont des gens pour qui s'intéressent surtout à la matière bretonne. C'est vrai que tout en étant une radio bilingue, hein, parce qu'il n'y avait pas une majorité d'émissions en breton, il y en avait, mais c'était quand même d'essayer de faire parler des gens du pays bigoudin. C'était une radio qui avait pour but de donner la parole à ceux qui ne l'avaient jamais. Jos Riou, qui était dans le dernier bureau vice-président, avait pris l'habitude de retransmettre tous les pardons du pays bigoudin. Ça aussi, c'est une expérience que j'ai eue, puisque je suis monté quelquefois installer l'antenne qui était tournée vers Plogastel, puisqu'on faisait tout ça en direct, mais on n'avait pas les moyens de maintenant. Ça plaisait aux gens, parce que je crois que ça a redonné un petit coup de fouet à ces pardons. hein, parce que on ne choisissait pas que des pardons célèbres, enfin courus, comme par exemple celui de Notre-Dame de Pénors. Bon, on allait par exemple à Saint-Viaud, qui est une belle petite chapelle non loin de Plonéour. Bon, il y a beaucoup de pardons qui ont été faits dans les lieux de culte confidentiels, enfin des chapelles qui finalement ne sont utilisées que pour la liturgie du pardon. Moi, je trouve que c'était d'autant plus remarquable que la radio n'avait pas une coloration religieuse. Je mets ça sur le même plan que, par exemple, des entretiens avec les hommes politiques du coin. Une autre chose qui était assez importante, c'est l'émission pour les personnes âgées. Le doyen des animateurs, c'était Alfred Geldreich, bon, qui a fait beaucoup pour les problèmes des personnes âgées. Une autre chose, c'est une émission œcuménique qui existait en dehors des pardons. C'était une émission où essentiellement on voyait quelqu'un qui est bien connu, Gusty Hervé, et puis aussi un des pasteurs qui exerçait sur la côte du Pays Bigoudin où la communauté protestante est assez importante. Et donc tout ça, ça créait finalement tout un réseau de volonté d'avoir une approche précise du territoire du Pays Bigoudin et de sa banlieue, si on peut dire.
Non, rassurez-vous, vous êtes bien sûr RBV, c'est-à-dire Radio Brovigouden.
L'esprit qui avait été connu dans la radio de 80 à 86 n'avait plus de raison d'être. Il y a eu cette publicité. On a engagé des commerciaux qui ne démarchaient pas. Et ça a été le début de la fin, puisque la radio a mis la clé sous la porte en 88. Moi, je pense que le bureau dont je faisais partie, puisque j'ai quand même été près de 6 ans président de Radio Brovigouden, a été réduit parce qu'il y en avait encore quelques-uns qui voulaient faire durer quelque chose qui ne pouvait pas durer avec des gens qui n'avaient aucune expérience de gérer les finances, de gérer la publicité, et puis la manière de gérer les problèmes d'argent tant qu'il n'y a pas eu de publicité, c'était de faire des fest-noz, hein, des braderies où on se donnait beaucoup, parce que pour un fest-noz, c'était toute une nuit complète de 5 heures du soir le samedi jusqu'à 5 heures du matin le dimanche. Et c'était quelque chose d'épuisant.
Pourquoi est-ce que la radio n'est pas restée associative ?
Il y a eu des problèmes internes qui fait qu'au bout d'un certain temps, il y a eu une fuite d'animateurs. Il y avait un certain essoufflement. Ce que je peux reprocher à beaucoup d'animateurs qui se sont succédés, c'est que quelquefois, ils n'avaient pas le souci d'une propreté de leur émission. Hein, parce que
vous avez des émissions pour les petits copains ?
Oui, c'est-à-dire qu'on faisait plaisir. Et puis, quelquefois, on venait dans un état pour faire une émission qui était inadmissible. Hein, étant donné que les gens qui faisaient partie du bureau avaient chacun leur travail, logiquement, il aurait fallu savoir ce qu'il y avait dans les émissions, mais matériellement, c'était impossible. On ne peut pas être à son travail et puis écouter la radio, enfin... C'était quand même un petit peu dommage quand on voyait qu'une émission commençait à tomber en déliquescence, enfin à faire un petit peu n'importe quoi. C'était plus possible et en fait c'est vrai qu'il y avait aussi des gens qui espéraient que la publicité leur offrirait un travail à temps plein. Quand on a commencé à faire de la publicité à Pont-l'Abbé, il y a des phénomènes qui auraient dû nous faire réfléchir. Par exemple, certains commerçants voulaient se faire programmateurs à notre place. C'est-à-dire que, par exemple, une émission comme la mienne, qui était une émission de musique classique, c'était quand même un petit peu étrange de voir des gens réclamer qu'on ne fasse plus de classique. Il fallait quand même une certaine psychologie vis-à-vis des commerçants et puis pour expliquer ce que c'est qu'une radio locale.
Faire ses armes dans une radio libre peut mener loin. Vous avez peut-être écouté les chroniques de Pascal Le Guern sur France Info. Pascal Le Guern, bonjour. Alors, vous êtes originaire de Quimper. Dites-nous comment est née chez vous cette passion pour la radio. Vous avez peut-être aussi quelques anecdotes à nous faire partager.
En fait, moi, j'ai démarré la radio à l'âge de 15-16 ans. On est dans les années 80, 82, 83, à l'époque où les FM explosent, les RLP, comme on les appelait à l'époque, les radios libres privées. Et j'ai un peu écumé toutes les radios quimpéroises à cette époque. C'était une époque formidable, d'ailleurs. J'ai commencé à Espèce FM, où je faisais une émission de musique classique. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec Canal Bleu Marine, où je faisais une émission de démystification des phénomènes paranormaux. Puis Radio Oxygène, où je faisais une émission musicale, pour terminer par l'autre radio, qui était une radio un peu plus élitiste, un peu plus intello, entre guillemets, où là j'ai fait une série d'émissions sur la vie de Sigmund Freud, tout un programme.
Alors pourquoi est-ce que la radio, ça vous intéressait à l'époque? Pourquoi ça vous intéresse toujours aujourd'hui? Vous êtes à France Info?
Oh ben, je trouve ça passionnant, je trouve ça magique, je trouve qu'à travers la voix, on arrive à déterminer finalement toute la vie d'une personne, le vécu, les failles, la sexualité d'une personne, tout passe, je trouve, à travers la voix. Je trouve que c'est un média merveilleux. Et puis, et à l'époque, dans ces radios libres privées, il y avait une liberté de ton, une liberté de parole qui était très importante. C'était des radios un peu familiales où on pouvait tout se permettre finalement, et on pouvait ne pas être professionnel, contrairement à maintenant où il y a moins de radio et il faut tout de suite être efficace.
Voilà, l'esprit a beaucoup changé aujourd'hui. Vous le percevez comment? Est-ce que vous regrettez un peu ce temps des premières radios libres?
Oui et non, parce que je suis toujours dans la radio, donc ça va, ça me plaît toujours autant. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, l'erreur était permise, on pouvait faire des bêtises, entre guillemets. Moi, je me rappelle que la première émission de radio que j'ai faite, je me suis trompé de bouton, j'ai pas ouvert mon micro, et les auditeurs ont entendu un grand blanc de 20 secondes. Ça, c'était ma première émission. Bon, après, je me suis un peu amélioré, heureusement, mais tout était permis. Un débutant pouvait proposer une émission et puis la faire le soir même. Quand j'ai démarré la radio, au départ, j'étais allé chercher une cassette que j'avais gagnée à une radio à Espace FM, à Quimper, et puis en allant chercher cette cassette, il y avait un type en bas de la radio qui sonnait, et je lui dis tu viens faire quoi? Ah ben, je viens demander pour voir si je peux faire animateur. Et je me dis, bah tiens, c'est une bonne idée, après tout je peux peut-être demander de faire la même chose. C'est ce que j'avais fait, et puis le lendemain je commençais ma première émission. Donc c'était c'est assez surréaliste. Aujourd'hui c'est plus possible, il faut être tout de suite professionnel. Et puis il y a plus beaucoup de radios libres privées, les fréquences ont été rachetées, la plupart des fréquences en tout cas, par des réseaux plus importants tels qu'Énergie ou autres.
Sur laser.
Pour terminer cette émission sur RCF Rivage, je vous rappelle l'existence de deux sites internet. Si vous voulez mieux connaître l'histoire des radios brestoises, allez donc faire un tour à l'adresse suivante http://pageperso-orange.fr/radio-brest. Page, c'est au pluriel, perso, c'est au singulier, radio au singulier également. Et puis notez l'adresse de ce blog, www.radio29.new.fr, radio au singulier et New au singulier également. C'est un forum consacré aux anciennes radios locales privées du Finistère. Un forum qui a été mis en ligne par Frédéric Montfort.
On peut mettre tous les souvenirs qu'on a sur les anciennes radios. C'est également sur le forum les autocollants que je possède. Je les ai mis dessus.
C'est des enregistrements également?
Il y en a très peu pour l'instant. C'est surtout du texte qu'on met, des archives papier.
Qu'est-ce que vous cherchez alors? Des enregistrements, des archives, de tout en fait?
Un peu de tout. Tout ce qui concerne la radio en général dans le Finistère. J'essaye de déjà vérifier quand même des informations qui sont mises quand on peut, et puis limiter autrement d'autres informations. Au niveau sonore, faut finalement mieux éviter de mettre beaucoup de choses, parce qu'on ne sait jamais au niveau des personnes qui ont enregistré ça à l'époque.
Sauf si vous retrouvez les personnes, évidemment, ou dans les radios qui existent toujours. Ça.
Voilà, si on a les accords des personnes, éventuellement, c'est faisable.
Thank you. Merci d'avoir suivi ces deux émissions sur RCF Rivage, deux émissions consacrées aux anciennes radios du Finistère. Merci à tous nos intervenants également, Frédéric Vaillant, Fortuné Pellicano, Eric Sommer, Jean-Jacques Urvoas, Jean-René Le Léanec, Bill, Gérard Dujarrier, Pascal Le Guerne, Frédéric Montfort, Jacques Darras, Jean-Paul Le Gallic, Rémi L'Hôpital et toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Sweet.